Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de Coup Critique. On se retrouve pour une nouvelle partie de Noir Abyss ou Cornebrume. C'est encore moi, Pépé, à la barre du navire, et je suis bien entendu accompagné toujours de ma co-capitaine, Marika Guilbeault-Brissette, avec qui j'ai le plaisir de faire cette courte campagne, en fait, de Noir Abyss. Bonsoir, Marika, ça va bien?
Ça va bien, toi-même, Pépé.
Ça va bien, merci. C'est rare, hein, que j'ai une intro comme aussi sérieuse. Habituellement, je niaise tout le temps un petit peu. Mais non, aujourd'hui, je décide de faire ça un peu plus convenu et un peu plus, disons, bien cadré. Donc, on s'approche tranquillement, quand même, je crois, de la fin, sans nécessairement vouloir dire combien d'épisodes il doit rester. On a plus que la moitié de fait, ça, c'est sûr, certain. Et pour faire un petit résumé de la dernière partie, bien sûr, Marika, je t'encourage à me compléter si jamais je manque des informations pertinentes. En fait, depuis les deux derniers épisodes, le personnage de, bien sûr, Virginia Vaughan, enquêtrice privée qui travaille à Arkham, a découvert non seulement un chemin qui menait sous le cinéma, où les Keystones se donnaient rendez-vous. Elle a finalement débouché dans un petit bâtiment, une maison située dans un quartier autre, où elle a trouvé un homme qui était attaché, qu'elle a détaché, et qui s'est avéré finalement être un homme qui travaillait en fait pour M. Kane, l'employeur de Virginia Vaughan elle-même, mais aussi également un malade, un maniaque qui a non seulement tué une bonne, mais également aussi un des membres de la gang des Keystone, les contrebandiers, alors que justement Virginia Vaughan en a profité pour finalement investiguer le lieu, la maison où elle se trouvait et tomber sur Elisa Amberg qui était cachée à l'intérieur d'une chambre au deuxième étage de la maison en question. Et suite à un moment de forte tension, Madame Vaughan a décidé de tirer une balle à bout portant dans la tête même de l'homme qu'elle avait libéré, alors que ce dernier rentrait à l'intérieur et que de la chambre et qu'on prenait conscience finalement que l'employeur, M. Kane, n'était peut-être pas nécessairement l'employeur bien intentionné, ni même l'oncle de Mademoiselle Amberg qui l'avait demandé de retrouver. Donc ainsi, on se retrouve à cette partie-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Marika, avant qu'on débute?
Pas quelque chose à rajouter, mais j'aurais une question par contre.
Oui, bien sûr.
Il me semble que à la fin du dernier épisode, Elisa m'avait dit où elle voulait que je l'amène parce qu'elle avait comme une possibilité de fuir, de quitter. Mais je ne me rappelle plus exactement c'est ce qu'elle avait mentionné.
Elle avait pas spécifié plus, on va dire, elle n'avait pas spécifié davantage qu'ils avaient pris une entente avec les Keystone pour pouvoir la faire sortir de la ville via possiblement un bateau qu'elle avait mentionné, mais en même temps, c'était comme confus elle-même, la manière qu'elle parlait. Ça paraît que c'est pas elle qui était aux commandes, si on veut, on va dire de l'opération en soi. C'est ce que tu as vu comme information en ce moment-là.
D'accord. Mais non, sinon rien à ajouter. C'était un très bon résumé.
Merci. Avant de débuter, on avait terminé la dernière partie avec on dirait, on avait donné de l'expérience, bien sûr, à Maïka. Et tu avais décidé, en fait, de dépenser 10 points d'expérience pour gagner un nouveau talent.
Oui.
Et ainsi, on avait décidé, tu m'avais demandé de sortir quelques talents. Ici, j'en ai sorti 4. Et je t'ai choisi parmi les 4 lequel que tu veux. C'est sûr que dans un autre contexte, il y en aurait bien plus. Mais pour l'instant, c'est ces 4-là qu'on a. Je te donne le choix. Je vais te nommer les 4, un après les autres. Tu prendras ta décision à la fin. Tu as le
Parfait.
choix entre réactif dans l'action, qui te permet de tirer 2 cartes au lieu d'une lors d'un tir d'initiative. Parce que je te rappelle, l'initiative, c'est ça, c'est qu'on tire 2 cartes. On tire chacun une carte, et c'est des chiffres qui vont de 1 à 10. Et le chiffre le plus bas, c'est lui, dans le fond, qui commence. Tu pourrais,
On a
exemple.
fait ça jusqu'à maintenant, tirer
Oui?
des cartes?
Oh oui, quand tu as eu ton combat contre l'espèce de créature, l'insecte
OK,
parasite.
mais c'est toi qui as tiré les
Oui,
cartes.
c'est moi
Moi,
qui les ai
j'avais pas de
tirées.
cartes.
Non,
OK.
c'est moi qui les ai tirées.
OK. Fait que là, mettons, sur les 2 cartes, je vais garder celle qui me fait passer en premier dans l'initiative, je mettons.
Exactement. C'est des petites cartes comme ça pour ceux qui me voyaient en
OK.
personne. J'avais tiré 2 cartes comme ça.
OK.
Fait que t'es réactif dans l'action. T'as crise contrôlée, qui te permet, en fait, lorsque tu lances pour un effet de stress critique, t'sais, un effet de trouble, eh bien, tu peux relancer une fois le résultat. Mais si tu le fais, tu es obligé de prendre le deuxième. Tu ne peux pas revenir au résultat précédent.
Mm-hmm.
OK.
Oui.
Ensuite, on a santé de fer qui permet d'augmenter ton score de santé maximum de 1. C'est possible de le prendre plusieurs fois dans le contexte où est-ce qu'on déciderait de. Tu déciderais, exemple, de redépenser un autre 10 points pour avoir santé de fer.
De 1, ça me ferait monter à 11, c'est
oui.
ça?
Par défaut, donc, tout le monde est à 10. Par défaut, tout le monde est à 10. Et finalement, interrogateur qui te donne un plus 1 au jeu de persuasion, mais pour extraire des informations d'une personne qui est considérée comme sans défense ou prisonnier.
Mm-hmm. OK. Hmm. Est-ce que toi, tu m'en conseilles un?
Non. C'était juste décidé. Je sais pas de. Ça dépend vraiment de la fait. Non, je ne veux pas influencer le choix. Là.
OK. Ben, j'hésite entre le truc lié à l'initiative.
Oui, réactif dans l'action.
Ouais. Peux-tu répéter, c'était quoi dans le deuxième?
La crise contrôlée. Ah, qui permet en fait de relancer un stress critique, un trouble en fait.
Non, ouais, fait que c'est ça. J'hésite entre le truc de réaction ou bien interrogation. L'interrogateur, ça.
Ouais.
Non, je vais prendre le truc d'initiative.
OK.
Répète-moi le nom, excuse-moi.
Réactif dans l'action.
OK.
Qui te permet de tirer deux cartes au lieu d'une lors de l'initiative et de choisir laquelle que tu veux. Fait que c'est même que si tu voudrais, exemple, agir en dernier dans une situation précise, tu pourrais.
Puis, rappelle-moi, c'est la carte la plus haute qui commence, c'est ça? Ou c'est l'inverse?
La plus basse. Dans le fond, un, okay. La personne qui a un commence, etc.
Excellent. C'est mon choix.
Parfait. Donc, Virginia Vaughan revient ici à 2 points d'expérience.
Oui.
Parfait. Et pour les gens qui nous écoutent en vidéo, je vais vous le faire afficher. Si vous êtes sur notre Patreon, vous allez également avoir accès à la nouvelle fiche en fait de Virginia Vaughan dans sa mise à jour. Mais pour que vous sachiez, j'ai rajouté en fait mécaniquement parlant. Elle a maintenant les effets, on va dire, du système qui apparaissent dans ses troubles critiques, chose que je n'avais pas nécessairement incorporé la première fois, les dernières fois plus tôt. Par exemple, son tressement nerveux, ce qui lui donne un moins 1 à ses jets de tir, donc un moins 1 de niveau de dé. Si, admettons qu'elle avait un niveau d'en tir, elle aurait D6, eh bien, le D6 ne compterait plus. Si c'est un D8, eh bien, il devient D6, etc. Et c'est rétroactif dans le cas où est-ce qu'elle aurait des bonus circonstanciels qui lui donneraient un bonus dans le jet de tir. Et également aussi, à la dernière partie, la dernière partie s'était terminée quasiment sur ce moment-là où tu avais gagné un nouveau trouble. Parce que tu avais manqué ton jet. Et ça le donnait, en fait, en le lançant, c'est que ça le donnait, en fait, gémissement incontrôlable. C'est que tu es tout le temps en train de, comme, soit serrer les dents ou faire du bruit. Tu es tout le temps en train de devoir faire du bruit, en quelque sorte. Quelque chose qui est vraiment, justement, incontrôlable et qui te donne moins 1 à tes jeux de discrétion. Et on en était rendu là. Donc, elle commence à être maganée, un peu. Richter Vaughan. Pour qu'elle prenne le temps de soigner ces troubles-là.
Ça risque pas d'être de sitôt, par contre.
Ben, sait-on jamais. Sait-on jamais. Bon, est-ce que tu es prêt, Marika? Si tu es prêt, oui. Est-ce qu'on se lance dans cette aventure où la folie se mêle à la réalité? Ici, on débute ensemble cette nouvelle partie. Aïe. Virginia Vaughan, tu. C'est normal, au début, tu vas peut-être être un peu confuse par rapport à la situation. Tu ouvres les yeux. Les dernières minutes sont un peu floues, je te dirais, dans ta tête. Tu ouvres les yeux alors que tu te retrouves dans un lit qui est un peu trop petit pour toi. Comme s'il était peut-être pour un lit pour enfant ou pour une jeune femme ou jeune adolescente. T'sais. Même si t'es. Oh, mais c'est vrai en même temps que t'es pas grande déjà de base. T'es comme une petite. T'es une petite, un petit carré. Fait que. Il est peut-être de ta grandeur dans ce cas-là. T'es peut-être juste correct. Mais c'est définitivement pas le lit dans lequel tu t'es réveillé ce matin. Tu vois que tu rouvres les yeux et c'est un lit avec des draps assez minces, un petit châle tricoté sur le dessus de la dernière couverture. Une espèce de grand oreiller assez. assez moelleux et assez, même je te dirais, assez profond dans lequel ta tête s'enfonce considérablement. Et lorsque la première chose que tu vois en ouvrant les yeux, c'est un plafond craquelé de bois avec une peinture qui s'écaille et un petit courant de vent qui passe au travers des myriades, des petits trous situés proche de la fenêtre à ta droite. Un petit rebord de fenêtre avec quelques petits objets sculptés en bois qui rappellent des éléments de la mer. Et je te pose la question, qu'est-ce que tu fais?
Je reconnais nullement où je suis.
Tu pourrais me faire... Fais-moi un jet d'esprit avec... tu peux le faire avec observation. Et fais-le sans prendre en considération ton jet de stress.
Yeah. C'est bon, j'ai un 6.
Parfait. En fait, oui, tu reconnais la maison dans laquelle tu as grandi.
OK.
Bien sûr, à Kingsport.
Mais là, est-ce qu'on est à l'époque de où se passe la partie ou...
Tu le sais pas.
Est-ce qu'il semble y avoir un miroir dans la pièce?
Oui.
Si je suis en mesure de me lever, est-ce que j'ai l'air blessé? Est-ce que je me sens faible? Est-ce que...
Non, non, non. Je te dirais que tu te sens pas particulièrement faible. Tu te sens peut-être un peu... peut-être un peu légère. Légère. Plus légère que les dernières fois. Okay. T'as peut-être l'impression un peu de comme avoir la tête dans un nuage, la bouche pleine de coton ouaté, de ouat, même je dirais plutôt. Et lorsque tu te regardes dans le miroir, effectivement, tu vois ton reflet. Tu ressembles un peu à. Tu reconnais, tu sais, Virginia Vaughan, mais définitivement, tu remarques que tes habits datent d'une époque, d'une autre époque.
Mais est-ce que j'ai l'âge? Mais physiquement, j'ai l'air plus jeune ou...
C'est difficile à dire, je te dirais. T'as l'impression peut-être que oui, ton corps a l'air plus jeune, mais tu vois quand même cette vieillesse, le fil des années dans tes yeux.
OK. Puis est-ce qu'il y a une porte qui mène à l'extérieur?
Je serais curieux en fait d'avoir peut-être ton avis là-dessus. Tu me diras ce que t'en penses, puis bien sûr, tu peux me dire si je me trompe. Mais comment est-ce que je vois un peu ta maison familiale à l'époque, pas une famille de pêcheurs, une pêcheur qui n'ont pas nécessairement, qui ne roulait pas sur l'or sans nécessairement pouvoir dire qu'ils étaient sur le point de la faillite. Mais je vois ça plus comme une très grande maison, mais constituée surtout d'une seule pièce, qui est possiblement séparée par des espèces de rideaux ou même des draps qui pouvaient être étendus sur des cordes à linge. Et ainsi, oui, tu peux apercevoir une porte qui mène jusqu'à l'extérieur. Tu reconnais la table à manger de ta maison, de tes parents, de ta famille, la table à manger dans laquelle tu t'assoyais si souvent pendant que ton père ou ta mère préparaient un de ces fameux bouillons soit de moule ou d'huître, quelque chose qui était bouilli, sauté avec un petit vin rouge ou même peut-être aussi de la sauce tomate. Et non loin de ton lit, le lit, ou plutôt les lits des autres membres de la famille, que ce soit tes frères et sœurs, et possiblement derrière un rideau, le lit de tes parents.
OK. Mais là, je suis seule.
Oui.
Je pense que pour m'en assurer, je ferai quand même à petits pas et j'imagine encore assez confuse le tour de la maison. Mm-hmm. Voir si je vois pas d'autres gens, s'il n'y a pas quelque chose qui attire mon attention parce que je sais pas... complètement inhabituel dans le décor, là, mettons.
Mm-hmm. OK.
Je chercherai quelque chose qui détonne par rapport au décor de la maison ou quelqu'un, s'il y a quelqu'un d'autre que moi.
OK. Tu fais le tour un peu. Je vais surfer sur la réussite que tu as eue, tout de même, c'est ton observation que tu as réussi. Tu fais le tour. Tu regardes, tu jettes un coup d'œil sur s'il y a comme la présence de quelqu'un possiblement, si t'entends le bois craquer, si t'entends des déplacements dans l'air et tout ça, mais ça demeure très, très calme, très même silencieux. De temps en temps, justement, le vent siffle à travers les planches de bois. Tu tombes sur une ou deux, tu sais, vous n'aviez pas nécessairement beaucoup de photos de famille, on s'entend, avec les années tout ça, là, c'est pas quelque chose qui était nécessairement si commun, il n'y a pas des albums de photos, mais tu reconnais tout de même un cadre, une espèce de cadre ovale, avec une fioriture en bois aux alentours, autour, qui représente une photo couleur sépia de ta famille. Et tu vois que la majorité, en fait, excepté toi, les autres personnes de la famille sont comme un peu plus floué, comme s'il y avait eu un effet de lavement, comme s'il y avait quelque chose qui avait lavé par-dessus leurs traits et même leur habit.
OK. Puis, tu sais, je veux dire, cette maison-là, est-ce qu'elle avait été détruite après l'éveil?
Non, parce que t'étais à l'intérieur quand c'est arrivé. T'étais en train d'écrire des messages, t'écrivais pour prendre des rendez-vous.
Ouais, dans ma tête, j'étais plus partout au rendez-vous, mais OK. Puis la photo, elle me semble inhabituelle, là, dans le sens où
oui, définitivement. Qu'elle a été... En fait, tu te rappelles de cette photo-là parce que tu es capable de t'imaginer le visage de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Mais à ce moment-là, présentement, là, tu vois que ça reste très flou. Et si tu es peut-être à l'extérieur, à côté de la photo, il y a une fenêtre avec des carreaux qui ont été comme un peu... presque blanchi, où c'était impossible d'apercevoir au complet l'extérieur, alors que l'effet du sel marin a comme vraiment comme pas aiguisé, mais a graffiné le contour des fenêtres, ce qui permet simplement d'avoir une espèce de halo rond pour pouvoir regarder à l'extérieur, et tu peux entreapercevoir la ville de Kingsport, mais tu vois que tout est très... Définitivement, tu as l'impression que tu n'es pas dans l'état normal que tu devrais l'être, ni la maison, ni la ville en soi, parce que la ville, c'est comme si tu la perdais, un peu comme l'effet de la vue qui se terminerait à cause de l'obscurité, mais pourtant, ce n'est pas obscur, c'est vraiment comme si la ville s'effaçait, rendu à certains points. Elle perdait comme de ses détails pour devenir plutôt une espèce de tache blanche.
Est-ce que ça pourrait être l'effet de la brume?
T'as pas l'impression, non, je te dirais. Okay. Oui, vas-y.
Admettons que je tends la main vers... la photo est dans un cadre, j'imagine, oui. Là, qui est comme oui. Sur pied. Oui. Je suis en train d'y toucher pour voir si ça fait quelque chose. C'est parce que j'ai pas vraiment interagi jusqu'à maintenant avec les objets de la maison, mm-hmm. Mis à part le lit.
Mm-hmm. Tu y touches. Tu vois que le contact est un peu... presque un peu... pas moite, mais c'est même cotonneux. T'avais l'impression que c'est comme si tu touchais un nuage dans tes mains, du coton. Mais t'es capable de la prendre, tu la prends et tu la tiens
c'est
dans ça, tes mains.
Il est tangible, j'y touche.
C'est tangible, tu y touches. T'entends un bruit derrière toi, une espèce de froissement qui ressemble un peu au bruit qu'on pourrait faire si tu pilerais sur des feuilles mortes. Et okay. En te retournant, t'aperçois sur la table de la maison une feuille, une espèce de lettre.
OK, je vais m'y rendre.
Et tu reconnais très bien sur la lettre l'écriture de ton père. Et tu vois que le message est assez court, assez direct, assez droit au but. Il fait justement mentionner que tu es parti pour la journée, pêche, voyage de pêche, déjeuner sur les récifs à l'est. Et de retour avant la soirée. Puis tu vois que ça termine avec un point. C'était ton choix, virgule. On t'aime quand même. Puis tu vois que c'est marqué la famille.
Est-ce que je me rappelle avoir vécu ça?
Oui.
OK, fait que je suis en train de revivre exactement ce que j'ai vécu au moment où c'est arrivé, là.
Oui.
Puis à ce moment-là, ça n'avait pas encore eu lieu.
Non.
Puis est-ce que je me rappelle exactement du moment où ça a eu lieu?
Mais tu vois qu'au moment où tu lis ces feuilles-là, c'est comme... Tu te rends compte que c'est absolument, je dirais, imminent. Même qu'à un point où, pendant que tu lis en fait le message et que tu prends conscience que c'est ce moment-là... précisément que tu es en train de revivre, t'as comme un espèce de mince, je dirais, sifflement dans l'air, un peu comme cette espèce de, d'effet de lourdeur qu'on peut ressentir avant un tremblement de terre ou avant quelque chose, juste cette espèce de, d'impression, ce sixième sens qui nous laisse croire qu'il y a un danger soudain qui pourrait venir nous écraser. Et tu as l'impression de percevoir justement le papier peint sur les murs peinturés qui commence à se, s'écailler à une vitesse faramineuse. Tu vois le, les vitres, les petites vitres carrées de la maison commencer à se scinder à la manière comme s'il y avait un petit, petit cri strident qui les faisait casser soudainement. Et tout devient très sombre. À l'extérieur, tu aperçois au, dans le ciel les étoiles comme si c'était en pleine nuit. Mais tu vois que c'est celle-ci, alors que pendant quelques secondes, elle demeure immobile, soudainement, elle se met à glisser en direction de la mer, comme s'il y avait quelque chose qui aspirait, on va dire, le cosmos ou même l'océan en direction de du cœur de l'océan. Et tu peux apercevoir le toit de certaines maisons qui se met à décoller, comme s'il y avait un grand vent qui partirait à la mer d'un tsunami. Tout se met à vibrer autour de toi, ça se met à trembler. La lettre sous tes yeux, pendant quelques secondes, il y a un petit égouttement qui se fait alors que des petites taches rouges viennent se scinder dessus. Tu vois que ça, vraiment, ça coule de ton nez, même que ça coule de tes yeux et tes oreilles. Tu te rappelles très bien à ce moment-là. Même si c'est quelque chose que les gens ne pensent pas, c'est quelque chose même qui a été enfoui dans leur tête pour les personnes qui l'ont vécu. C'est quelque chose en fait qu'on s'en rappelle, mais qu'on essaie de pas y penser. Mais tu vois qu'à ce moment-là, ça te revient en tête, ça te revient à l'esprit. Tu penses que c'était quoi ton premier réflexe que tu as eu au moment où, justement, le ciel a été dévoré?
Non, ça aurait été de sortir à l'extérieur. Parce que j'aurais voulu aller voir s'il y avait d'autres gens. J'aurais voulu être accompagnée, tu sais, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, je pensais mourir. Tu sais, je pensais que c'était la fin pour tout le monde.
Oui.
Fait que je me disais, je veux pas être seule. Tu sais, j'ai pris la décision de rester toute seule pour faire mes affaires personnelles. Puis là, finalement, c'est comme... Je regrette doublement ma décision parce que je veux pas mourir toute seule. Tu sais, que ça soit des voisins, peu importe. Tu sais, je veux dire, j'habite ce quartier-là, je connais les gens alentour. Je voudrais juste aller voir s'il y a d'autres gens pour au moins qu'on finisse ensemble et pas isolé dans ma maison avec ma lettre d'au revoir. Là.
OK. Tu sors à l'extérieur. Ton premier réflexe, justement, c'est ce que tu mentionnes, c'est de sortir immédiatement. Moi, ce que tu tires sur la porte, celle-ci se détache de ses gonds comme s'il ne restait plus grand-chose qui la tenait en place. Et lorsque tu vois à l'extérieur, tu continues à voir ce firmament-là qui se met à s'étirer, qui devient presque des lignes plutôt que des points et qui se, on va dire, qui s'assemble vers un, justement, un point central situé au cœur de l'océan, quelque chose qui a l'air d'être le nœud de l'événement, ou plutôt l'endroit où tout a débuté, où tout a commencé, où l'éveil est arrivé. Et tu vois que justement cet océan-là sur lequel tu t'es navigué, sur lequel tu as pris la mer si souvent avec avec ta famille, est d'une. Et tout le contraire d'une accalmie. Il est comme houleux, il est dangereux, même qu'il y a un point où tu ne comprends pas le sens des vagues, comme si les vagues allaient à des contresens qu'elles ne pouvaient pas normalement aller, même donnant l'impression qu'il y avait un siphon au cœur de l'océan qui commençait à créer une spirale qui attirait les navires et autres bateaux et autres embarcations, ou même des maisons qui sont situées sur le bord de la mer en direction du cœur même, on va dire, de cet endroit qui allait devenir très prochainement le quotidien de tous, c'est-à-dire une mer sombre et brumeuse. Je te donne le choix entre soit tu te rappelles que tu avais un voisin à ta gauche qui était un homme assez âgé à la retraite, qui avait terminé, en fait, avait pris sa retraite à Kingsport en investissant de l'argent dans une petite maison, ou à ta droite, qui était une petite famille aimante, assez gentille, sensiblement dans les mêmes âges aussi, avec des enfants justement dans les âges de toi et tes frères et sœurs, mais tu vois que les parents étaient un peu plus religieux conservateurs, disons.
Bon, c'est sûr que d'emblée, la petite famille me fait penser à la mienne, mais en même temps, je pense que vu ma personnalité quand même empathique face aux plus démunis et tout ça, j'aurais envie que le vieux bonhomme tout seul soit pas tout seul. Okay. Fait que j'irais avec le vieux bonhomme.
OK. Tu vas jusqu'à la maison du vieux bonhomme, tu vois que c'est sensiblement une demeure qui est très identique à la vôtre. C'est Ces demeures-là qui sont situées sur le bord de l'eau sont tous connectés souvent par des espèces de petits pontons en bois qui facilitent justement la connexion et les liens. Là, tu sais, vous pouvez tous être, avoir vos bateaux amarrés en même endroit et tout ça. Et tu te rends là en courant, j'imagine. Tu as l'impression de sentir justement ta peau se décoller comme s'il y avait une espèce d'effet de pression qui se faisait. C'est presque l'effet, on va dire, d'une bombe atomique, même si c'est pas vraiment le cas à ce moment-là. Et au moment où tu arrives à la maison de l'homme en question, est-ce que tu penses que c'est ce qu'il est arrivé pour vrai dans la vie, ou c'est ce que tu penses que là, présentement, tu fais dans ton rêve, quelque chose de nouveau?
Je pense que c'est ce qui est arrivé pour vrai dans la vie.
OK. Tu arrives à la maison de l'homme en question. Comment il se nomme? Je vais me sortir un nom comme ça.
Nelson.
OK. À la maison de Nelson. Le vieil homme à la retraite. Est-ce que tu cognes? Est-ce que tu rentres par réflexe?
Non, je rentrerai. Là. Je pense que c'est un peu la panique. Là. J'ôterai toute ma courtoisie, là, je crois.
Parfait. Lorsque tu rentres, tu vois que la maison de Nelson, elle est sans dessus-dessous. Tu vois qu'il y a des livres éparpillés, les meubles ont commencé à être renversés sur eux-mêmes. Bref, sa demeure subit un peu le même processus que la tienne en ce moment même. Et tu entends Nelson, le vieil homme, qui crie depuis ce qui doit être sa salle de bain, tu vois, qu'il hurle quelque chose qui doit ressembler à... Qui est là? Qui est là?
Nelson, c'est Virginia! Puis je vais essayer de le rejoindre, là, d'où j'entends les cris.
OK. Tu t'approches de la salle de bain, tu vois que la salle de bain est ouverte. Et il y a un étrange bruit, une espèce de ploc-ploc qui se fait entendre. Alors que lorsque tu arrives à la salle de bain, tu te rends compte que Nelson est en train de s'extraire les yeux, en fait, avec ses doigts. Et tu vois qu'il est comme rendu au second œil. Et au moment où tu arrives, il tourne la tête vers toi, alors qu'il est comme un de ses orbites. Il le soulève tranquillement vers toi, son dernier iris qui se maintient de peine et de misère, et il fait seulement te dire que la solution à tout ça, eh bien, c'est ne plus voir et ne plus rien entendre. Et tu vois qu'il y a dans ses mains une espèce de paire de ciseaux, comme si il était prêt à vouloir procéder à la même chose sur toi, peut-être.
Et je me sauve.
OK. Tu vois que ça a été possiblement la pire journée de ta vie pour beaucoup de gens.
Oui, j'imagine.
Énormément de personnes qui ont perdu la tête immédiatement. Des gens qui avaient peut-être une fragilité mentale déjà à ce moment-là, lorsque c'est survenu. Au moment où tu sors de la maison de Nelson, il y a quelque chose de nouveau, par contre. C'est quelque chose qui n'est pas réellement arrivé, du moins, lors de cette journée. Tu aperçois une lueur. Tout est un peu gris, tout est un peu sombre. Mais il y a quelque chose qui détonne, qui émet une faible lueur un peu bleutée, même une lueur presque blanchâtre, un genre de bleu blanc qui apparaît, qui transparaît non loin de ta porte d'entrée. Et tu aperçois sur le sol un chat. Un chat que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu ta vie.
Et là, est-ce que j'ai les informations que j'ai acquise dans mon enquête, où je suis avec la tête de Virginia au jour où les choses se sont passées?
Non, tu as les informations que tu as acquises dans ton enquête, parce que c'est pas réellement en train de ce qui est de se passer. C'est pas réellement quelque chose qui se passe en ce moment, c'est un souvenir.
Parce qu'il y a été question des chats plus tôt.
Oui.
Attends, faut que je retrouve l'information, là. Je l'ai. Là. C'était un nom particulier. Là. Il y avait les chats de quelque chose. Mais est-ce que ça a l'air d'être un chat normal? Les chats d'Ultar, c'est ça, hein?
Oui, c'est vrai ça.
Suivez les chats, ils vont vous ramener chez vous. Fait que j'ai cette information-là. Puis là, il est devant chez moi?
Tu vois qu'il est devant chez toi, et non, définitivement, ce n'est pas un chat normal, alors que tu l'aperçois te regarder de ses deux yeux avec un semblant, ou du moins une impression d'intelligence qui dépasse le simple animal. Et soudainement, tu aperçois son troisième œil qui se met à ouvrir et à fermer au niveau de son front. Et tu peux le voir également justement apparaître. J'ai mis une image sur le sur notre conversation, sur le tableau blanc, que bien sûr les gens qui l'écoutent en visuel ont l'accès. Tu vois le petit chat comme ça qui apparaît.
Okay.
Et il... Comment?
Il a l'air de m'attendre ou...
Oui, genre, il a l'air de t'attendre.
Voit, lui?
Oui, oui, il te voit, tu vois qu'il a l'air de t'attendre.
Même si c'est inquiétant, en sachant l'information que j'avais eue, je ne m'en rappelle plus qui m'avait dit ça, par contre.
Moi, je m'en rappelle. Mais
attends, là, je vais regarder mes notes comme il faut. Là, je t'allais vite pour pas... Ah, c'est le vieux bonhomme. Il est mort. En tout cas, qui est peut-être mort, là, mais le monsieur qui devait me crier à tribord, là, c'est lui qui m'a dit ça. Je vais y faire confiance, parce qu'apparemment, je ne peux pas faire confiance aux humains. Hein. Ils veulent me couper les yeux. Fait que... Je vais aller vers lui. Puis, je ne vais pas le toucher nécessairement, mais je vais voir. T'sais, mon idée, c'est s'il semble, je vais le suivre. Puis peu importe où il va aller, je vais le suivre.
OK. Tu le suis. Et en fait, tu t'approches de lui. Tu vois qu'il te fait signe. Mm-hmm. Il se tourne en direction de l'intérieur de ta maison. Puis il te fait signe avec sa tête de rentrer. Puis il te dit, tu peux me suivre.
Il me dit ça.
Oui.
Est-ce qu'il me dit dans ma tête ou il dit avec des mots, genre avec sa gueule?
T'as l'impression que sa bouche, elle bouge, mais en même temps, tu vois que ça ne semble pas concorder avec réellement ce qu'il te dit. Possiblement que c'est transposé dans ta tête, mais qu'il doit peut-être mentionner des paroles qui te sont inconnues ou que tu ne peux pas comprendre ou assimiler en tant qu'être humain.
Puis moi, j'avais compris quand on m'avait parlé de ces chats-là que ça avait rapport avec le monde des rêves, n'est-ce pas?
Oui.
OK. Fait que, genre, j'imagine qu'à ce moment-là, je suis comme pio du fait que c'est pas vrai ce qui se passe. Fait que je vais plus accepter de façon consciente de le suivre sans trop me poser de questions sur le fait qu'un chat s'adresse à moi, mettons.
OK.
Je vais juste faire ce qu'il me dit, là.
Parfait. Tu le suis. Est-ce que tu lui réponds ou tu fais juste le regarder avec béatitude?
Non, je réponds pas.
OK.
C'est trop bizarre encore. Là.
OK. Tu le suis. Il t'amène à l'intérieur de sa maison. De ta maison, plutôt.
Ouais.
Il reste devant toi. Il s'assoit à la manière d'un chat. Toi, qu'il cligne encore des yeux un peu. T'as l'impression qu'il sourit, comme si un chat pouvait s'ouvrir. Même. Et il dit... je m'appelle Carmine. C'est ton père qui m'envoie.
D'accord. Pourquoi?
Et ils ne sont pas morts, tu sais.
Non.
Oui. Ils sont traversés de l'autre côté. Dans le monde des rêves.
Et ils en sont prisonniers?
Oui. Ils voulaient que tu le saches. Pour que tu arrêtes de t'inquiéter. Ou du moins que tu puisses faire la paix. Est-ce qu'ils vont pouvoir réellement revenir? Ça, je ne le sais pas. Et ils ne le savent pas non plus. Mais au moins, maintenant, tu sais. Et avec peut-être un peu de chance et un peu de pratique, tu pourrais peut-être un jour les voir.
Mais ce n'est pas moins inquiétant.
Pourquoi?
Parce que maintenant, je vais vivre avec la possibilité de peut-être les sortir de là.
Mais il savait que tu allais dire ça. Il sait que tu es une personne qui a une certaine volonté. Tu demeures assez maître de ton destin, mais il voulait au moins que tu saches qu'ils sont encore en vie. Ils sont quelque part pour
venir.
Eh bien, moi, je suis un chat. C'est tout à fait normal. Les chats, ils font ça. N'est-ce pas?
Pas tous les chats.
Et ça semble confondre. Et oh, c'est parce qu'ils ne le savent pas encore. Bref, tu as quelque chose à terminer avant, je crois. Mais au moins maintenant, tu sais. Et tu peux prendre les mesures nécessaires si besoin est.
Et si j'ai besoin de te parler encore?
Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. C'est pas sans risque de venir dans les rêves de quelqu'un.
Le monde des rêves est quelque chose d'assez incroyable, mais qui peut être aussi très dangereux lorsqu'on ne sait pas naviguer.
Mais toi, tu sais.
Disons que je me pratique, mais ça demeure risqué. Je pense que tu aurais plus de facilité à toi-même venir. C'est plus facile. Moi, j'y suis physiquement. Toi, tu peux tout simplement envoyer ton esprit, comme tout être humain.
Mais est-ce qu'il y a de fortes chances que tu y sois lorsque j'envoie mon esprit ou c'est le hasard?
Oui, si tu penses pouvoir rêver à ce moment précis, je pourrais y être.
D'accord. Tu peux leur faire un message pour moi?
Oui.
Je leur demande pardon de ne pas avoir été avec eux.
Oh. Je vais leur dire, mais je ne pense pas qu'ils t'en veuillent pour ça.
Puis je repense à la lettre, genre, on t'aime quand même, là.
Ouais.
Mais bon.
Réveille-toi, Virginia.
Et j'imagine que je me réveille.
Mais tu vois qu'il répète quelques fois et éventuellement, sa voix devient comme un peu plus discordante et devient plus masculine alors que tu entrouvres les yeux et que tu es de nouveau dans cette pièce au deuxième étage d'un bâtiment après avoir asséné un tir de balle dans la tête d'un homme. Et la première chose que tu vois, c'est non seulement cet effet de splash rouge qu'il y a sur le mur, mais également aussi ces quelques individus qui sont penchés par-dessus toi.
Oh non, ils sont plusieurs?
Oui. Tu vois qu'il y a, bien sûr, il y a Elisa Amberg, mais tu vois qu'il y a 4-5 personnes juste dans la pièce où tu es, puis il semble en avoir d'autres dans le corridor. Et tu vois que c'est des personnes qui portent tout un peu le même habit que tu reconnais comme étant des contrebandiers de Keystone. Il y a un homme et une femme penchés par-dessus toi. Okay. L'homme, tu l'as jamais vu, mais la femme, tu l'as déjà vu, par exemple.
Étais-tu sur une des photos que j'ai prises?
Non, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était la femme qui t'avait servi au pachyderme.
OK. J'imagine que là, tu sais, je me réveille un peu. Tu sais, je suis tombée endormie, genre,
T'es
après avoir donné...
T'es tombé dans l'inconscience, en fait. T'as
OK.
Snap-out, là.
OK, fait que j'imagine que je suis encore un peu mélangée et tout ça, puis que ça me prend quelques secondes m'en remettre, là. Même peut-être que ça me prend quelques temps à me relever, là, tu sais. Je dois demeurer au sol en les regardant avec des yeux un peu ébahis, un peu dans le flou, là.
Et tu sais, ce qu'il fait, c'est qu'il répète encore une fois, puis c'est la voix, c'est l'homme qui parle, il fait « Virginia, c'est bien ça votre nom? Virginia Vaughan? Mademoiselle, vous allez bien? » Puis tu vois que la femme à côté de lui, elle qui t'avait servi, elle dit « Oui, oui, je la reconnais, celle qui était au bar le soir, où elle a posé des questions. Elle a fait le symbole. »
Oui, c'est moi. Pourquoi vous arrivez maintenant? Il est un peu trop tard, non?
Que ça fait... L'homme le regarde, on regarde la femme, on regarde Elisa en arrière. Elisa, elle s'approche de toi. Elle dit, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas quoi faire. Vous étiez dans les vapes. Ça fait peut-être un peu plus que 2 heures et demie. J'ai été chercher de l'aide. Je ne savais pas vers qui me tourner. Il y avait le corps et le corps de... Puis tu pointes le gars. En fait, il n'est plus là, mais le gars qui devait être à l'extérieur, l'autre corps... qui s'est fait tuer, fait qu'elle, sûr qu'elle savait pas où elle était comme je savais pas bien qui me tournait, vous ne réagissiez pas.
Et là, je vais comme me lever. Mais nous avons déjà perdu un temps précieux. Il faut sortir Elisa d'ici au plus vite.
Donc l'homme se penche un peu vers toi, il t'aide à te relever. Les deux, tu vois qu'il. La femme, tu la reconnais. L'homme, tu l'avais jamais vu. Il fait, je m'appelle Miguel Leon. Ça, c'est Edna Kinski. On est les deux personnes qui s'occupent de la branche des contrebandiers de Keystone à Arkham. Elisa m'a fait penser un peu de la situation. Elle m'a dit que, peu le fait que vous soyez fait avoir par
Monsieur Kane, faisant passer pour son... Il s'est fait passer pour son oncle. Ce n'est pas quelque chose... Vous n'étiez pas mal intentionné, si on peut se permettre l'expression. Quoique, je ne sais pas présentement quelles sont vos allégeances, mais si vous me permettez un peu de faire valoir notre point, bien que nous avons donné l'impression d'avoir enlevé Mademoiselle Amber, il y a tout de même une intention plutôt bienveillante derrière.
Oui, c'est ce que j'ai compris. Vous pouvez voir que mes allégeances, j'ai pointé la flaque, tu sais, le sang partout là, dans la salle, sont plutôt éloquentes. Ce n'est pas du tout mon genre de poser ce genre d'acte. Ça montre que ce que je voulais en priorité, c'était la protéger. Et dès le moment où j'ai été engagée par Mr. Kane, je voulais juste protéger Elisa, peu importe qui en avait après elle, en fait.
Oui, oui, c'est ce qu'on... C'est la déduction que nous avons eue. Puis sûr qu'Edna a rajouté un espèce de... Il fait, lorsque je vous ai vu au bar et vous avez posé des questions, vous ne sembliez pas non plus mal intentionné, mais on ne vous connaissait pas. Je n'avais pas voulu outrepasser mes droits dans les contrebandiers, donc je n'avais pas nécessairement pris sur moi l'intention de vous partager des informations dans l'immédiat. On voulait peut-être en apprendre un peu plus sur vous. Malheureusement, la situation semble avoir dégénéré assez rapidement. Puis c'était justement en pointant le corps sur le sol.
Ah oui, il y a eu d'autres événements entre les deux, je peux vous le dire.
Sauf que Miguel lève un peu le sourcil. Quel genre d'événement, si vous pouvez en dire plus?
Eh bien, il y avait un homme dans le bar, justement, et lui, il semblait avoir des informations. Et je l'ai poursuivi, et je me suis retrouvé dans une de ses maisons avec les affiches disant de ne pas entrer. Et on s'est fait attaquer par une sorte de... zombie, créature, mi-humaine, mi-bête. On s'en est tiré quand même, mais après, voilà, j'ai eu votre piste et vous croyez en mal intentionné. Disons que je suis allé avec les moyens du bord et je dois m'excuser d'avoir mis le feu à votre cinéma.
Toutes les personnes dans la pièce arrêtent de faire ce qu'ils font puis se tournent vers toi avec toute une face un peu à la fois de confusion, mais aussi de un début de frustration. C'est sûr qu'il ne savait pas, là, il n'a pas caché, c'était toi. Là. Et Miguel, il dit on réglera ça une autre fois. Il fait c'est
possible. Oh, jamais.
Il fait ça, ne vous dérange pas, on a pris le soin de vous enlever quelque chose que vous aviez sur vous. Et tu vois qu'il pointe en direction sur le sol, pas loin, tu vois qu'il y a comme une cordelette avec quelque chose sur le plancher qui est cassé. Tu vois que ça a été écrasé comme un coup de pied. Et c'est le... En fait, comment?
Est-ce qu'ils ont brisé mon objet fétiche?
Non, c'est ton amulette qui était reçue, Monsieur King.
Ok, d'accord. Vous avez bien fait.
Et puis en fait, avec ça, on a quelques membres qui sont un peu plus à l'aise dans ce qu'on pourrait appeler les arts arcanes et... Avec ça, il pouvait vous tracer n'importe où. Je ne sais pas si c'est ce que vous saviez. Il vous traçait, disons, à la seconde près.
Mais il m'avait mentionné que je pouvais l'activer lorsque je serais en présence d'Elisa, mais j'ai quand même eu un petit doute parce que j'ai vu l'un de leurs hommes dans la ruelle près de votre cinéma.
Oui, et il y en a quelques-uns qui sont présentement dehors du bâtiment. Ils font comme si de rien n'était, mais malheureusement, présentement, on ne peut pas... Du moins, pour l'instant, on essaie de voir les possibilités sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire sortir Elisa d'ici le plus subtilement possible, sans attirer l'attention.
On ne peut pas reprendre le corridor souterrain?
Non. Non, il y a eu des coups de feu à l'extérieur du cinéma et la police y est présentement. Ils ont installé un périmètre de sécurité et je vous avoue qu'on n'a pas les fonds pour avoir les policiers dans nos poches alors que M. Kane a amplement l'argent nécessaire pour le faire. Et qu'est-ce que M. Kane vous a dit sur sa nièce, si je peux me permettre la question?
Pas grand-chose, en fait. Il m'a dit qu'elle avait été kidnappée, qu'il voulait la retrouver, qu'il soupçonnait que c'était des cultistes qui l'avaient enlevée. Rien vraiment de plus, je vous dirais. Il y avait un homme avec lui qui m'a donné l'amulette et... Il semblait étrange. Il semblait lui aussi plutôt versé dans les arts occultes.
Oui. En fait, si on peut le dire ainsi, c'est plus M. Kane lui-même qui est dans des... Disons qu'il verse dans quelques croyances, je dirais, plutôt dangereuses. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la porte et la clé?
J'en ai entendu parler, non?
C'est, en fait, c'est Elisa qui arrêtait pas de répéter ça.
Ah, OK, parfait, voilà, c'est ça. Seulement de la bouche d'Elisa il y a quelques heures, en fait.
C'est une croyance, disons, assez répandue parmi des gens qui, justement, ont décidé de se tourner vers ce type de prophétie, mais aussi d'entité. Où la porte et la clé, c'est une allégeance envers une créature, ou du moins une instance, quelque chose de plus grand que nous, plus grand que l'homme. Quelque chose qui faciliterait le déplacement, le voyage. Lui-même, tu vois qu'il en parle comme si ça sonnait un peu ridicule, puis effectivement, ça sonnait un peu ridicule de sa bouche, là, en disant qu'il dit le voyage dans le temps, les voyages temporels, les plans, l'existence, les croyances au-delà de la Terre elle-même, les possibilités psychiques de voyager, le transfert de corps, des choses comme ça. Et si vous ne le saviez pas, ou du moins peut-être que vous le savez, puisque vous étiez dans le cinéma, mais Elisa elle-même a une capacité qui va au-delà de l'humain moyen.
Oui, j'ai vu le film. Mais si vous n'y croyez pas et que vous avez l'air de tourner au ridicule les croyances de Mr. Kane, vous avez quand même tourné le film. C'est vous qui avez fait ça.
En fait, on n'y croyait pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que réellement on puisse s'apercevoir ce qu'Elisa pouvait faire. Et je vous avoue que depuis... Tous ces jeunes qui sont nés après l'éveil, ce sont tous des... Il y en a quelques-uns qui, justement, ont développé des capacités comme ce que Elisa peut faire. Mais est-ce que vous comprenez réellement son implication qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle peut réellement faire?
Non.
Qu'est-ce que vous avez vu sur le film?
J'ai vu qu'elle chantait. J'ai vu que la réalité semblait que tout semblait contorsionné. J'ai vu une porte s'ouvrir. Je me suis sentie pas très bien. Et j'ai vu quelqu'un dans une grande combinaison passer à travers la porte. C'était l'un d'entre vous?
En fait, il a essayé de passer à travers la porte, mais ça n'a pas marché. Justement, le problème, c'est que on n'est pas capable de soutenir le chant d'Elisa lorsqu'elle est à son plein potentiel. Et on n'est pas capable de rester dans la même pièce sans qu'il arrive des effets secondaires plutôt fâcheux lorsqu'elle pousse la note à un point où le portail s'ouvre. Et on a besoin... Du moins, on espérait qu'en utilisant les films, on puisse être capable de recréer un effet un peu dilué de sa capacité via la projection et via le son qui est enregistré. Mais malheureusement, il faut croire que notre équipement n'est pas assez poussé pour pouvoir mener à bien ce type de projet. Mais est-ce que vous me permettez de vous montrer quelque chose?
Avant, s'il vous plaît, j'aimerais que vous répondiez à une autre de mes questions. Je ne voudrais pas m'éprendre, mais vous avez l'air de reprocher à Mr. Kane de vouloir utiliser Elisa un peu comme un outil de l'instrumentaliser, mais ce n'est pas exactement la même chose que vous faites.
Ça a exactement un lien avec ce que je veux vous montrer, puisque l'objectif, ou du moins la pratique, demeure la même, bien que nous sommes tout de même assez... Je crois que nous occupons assez bien d'elle. Il se tourne vers elle, puis en tout cas, là, je la tête dans une espèce de... Ouais, elle est pas baignée dans ouate, mais pas non plus en train d'être en misère. Là. Elle dit, mais l'objectif final, du moins la finalité, une fois que nous aurions réussi à traverser, ou du moins à comprendre, ou à atteindre l'autre côté, n'est pas du tout le même. Notre but, c'est la sauvegarde. Alors que le but de M. Kane,
c'est la destruction et l'assimilation. Et si vous me permettez, justement, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il finit même pas sa phrase, il se tourne vers Elisa. Puis il dit à Elisa, Elisa, veux-tu murmurer pour Madame Virginia? Ce que Elisa est toute gênée, elle s'approche de toi, elle se penche, elle s'assoit à côté de toi. T'sais, ils t'ont comme assis un peu sur le lit. C'était comme l'espèce de lit où est-ce qu'Elisa était dans la chambre. Vous êtes encore dans cette espèce de... Vous êtes tout cloîtré dans la chambre d'Elisa. Beaucoup trop de personnes dans la même pièce. Et Elisa se penche à ton oreille. Et elle s'approche vraiment, vraiment de ton oreille. Très, très proche. Pour être sûr que ce soit juste toi. Là. Puis elle commence à te murmurer une chanson.
C'est je la demander... même?
Non, pas nécessairement.
Ok.
Non, ça ressemble plus à quasiment presque une comptine, quelque chose de beaucoup plus intuitif, le moins porté vers les grandes envolées verbales et tout ça. Et je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet d'esprit avec psychique, si tu l'avais, mais tu ne l'as pas. Donc, seulement esprit.
Ben, et avec mon dé de stress quand même. Là.
Oui. Et ta D10.
Ouais.
D'ailleurs, by the way, je voulais te le dire, je voulais te le mentionner. Puisque tu as trouvé Elisa, ça te donne un nouvel indice.
OK.
T'en avais dépensé un.
Mais là, tu l'avais...
Je l'ai pas mis. Je t'ai oublié de le mettre.
Non, OK, c'est ça. J'en ai deux.
T'en as deux.
OK, parfait. Puis là, attends, excuse-moi, là, je sais que je te le demande à chaque fois, mais gaspiller un indice, c'est pour relancer, hein?
Relancer au complet. Même après avoir échoué, tu peux décider de relancer.
OK.
Ou ignorer aussi. Ou ignorer, mettons que tu dirais, t'as réussi ton jet, mais t'aurais normalement les répercussions d'un trouble ou un stress.
Ouais.
Tu peux décider de dépenser ton indice pour faire non.
OK. Puis là, rappelle-moi sur le D10,
ouais.
C'est si j'ai un, deux ou trois que c'est un échec.
Que c'est une répercussion.
Que je vais avoir un, ouais.
Un trouble.
Oh mon doux. Ben, je vais gaspiller un indice pour relancer parce que j'ai eu 3 sur mon D10 puis j'ai eu 2 sur le D8.
Ok, parfait.
Fait que je retombe à 1. C'est bon, j'ai eu 10 sur le D10.
Donc, 2 réussites?
Ouais, mais c'est parce tout, que... j'ai rien eu sur l'autre.
Parfait. 2 réussites.
Ça valait la peine de gaspiller mon indice.
Oui, ça valait la peine, parce que je dirais qu'après 3 troubles, là, c'est rendu quelque chose. Elle chantonne dans ton oreille quelques secondes. Tu vois que l'ambiance de la pièce demeure tournée vers toi, tu sais, cloîtrée. Tout le monde a comme les yeux rivés vers toi, comme si ce qu'elle faisait présentement allait avoir une répercussion assez importante par rapport à, c'est pas nécessairement ton opinion, mais par rapport peut-être à la manière que tu perçois la vie ou le monde. Là, ça semble vraiment être quelque chose d'assez unique, là, même si tu ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe réellement. Mais plus elle chantonne, plus tu as encore une fois de nouveau cette espèce de sentiment de légèreté qui se fait, quelque chose qui semble se relever, se soulever. Tu peux apercevoir les pellicules dans l'air traverse, qui sont en fait mis à la vue sous la lumière traversant le hublot de la fenêtre, qui se mettent à flotter, même à se balancer presque au rythme de la voix de Elisa et de qu'est-ce qu'elle plus murmure, de qu'est-ce qu'elle te murmure à l'oreille. Et tout autour de toi, tu vois que la pièce commence à devenir très floue, comme si les gens un peu perdaient, comme si tu enlevais tes lunettes et que soudainement tu faisais de la myopie, tu as vraiment une vision qui est très limitée. Mais contrairement à, disons, le rêve que tu avais tout à l'heure...
Ouais, c'est ce que j'allais dire, là. Si je voyais une similitude.
Non, pas du tout. Je crois que c'est très tangible.
OK.
Très, très, très tangible. Okay. Très tangible. T'es très, très perçant. T'es très en contrôle de ton corps. T'es très en contrôle de la situation, de qu'est-ce qui se passe autour de toi, de l'événement. T'es pas du tout dans un sentiment de « what ». Tu sens, en fait, le vent qui te fouette le visage. Tu sens... la chaleur du soleil au-dessus de ta tête et tu te rends compte que tu n'es plus présentement dans le bureau. Tu n'es plus dans la chambre, tu dis ça.
OK.
T'es... tu saurais pas trop dire t'es où, en fait. T'es dans une ville, ça semble être une ville qui te dit quelque chose. Elle te dit vraiment quelque chose, la ville. Que ce soit dans les bâtiments, que ce soit dans la configuration des lieux. Mais définitivement, l'ambiance est vraiment pas pareille. OK, il y a le soleil au-dessus de ta tête, il y a des gens dans les rues, ça parle, ça jase. Tu vois un homme passer en habit militaire, une espèce d'habit vert avec des médailles et aussi des patchs qui ont été cousus sur son linge et qui passe dans la rue en hurlant quelque chose que tu n'as pas vraiment le temps de comprendre parce qu'il passe en criant puis tu vois qu'il y a une bouteille de champagne dans ses mains.
Est-ce que je peux faire un jet pour me rappeler cette ville ou...
Oui, bien sûr. Absolument.
Ça serait quoi?
Tu peux me faire un jet soit de recherche ou d'observation. Je te permettrai un des deux.
J'ai la même chose dans les deux. Puis j'imagine que mon stress s'applique encore?
Oui, absolument.
C'est bon, j'ai deux succès.
Deux succès? OK.
Ouais.
Y a-tu quelque chose de plus que tu voudrais savoir en plus de l'information que j'ai donnée concernant la ville? Parce que oui, tu la reconnais. Je vais te le dire, mais je sens un peu avant si tu as quelque chose.
Si je peux, mais je ne suis pas sûr que ça a rapport avec recherche ou observation, mais si je peux, j'aimerais ça comprendre pourquoi ça m'envoie là.
Mm-hmm. Okay, je
pourquoi
comprends ce que
là
tu veux
plutôt qu'ailleurs, mettons. Là. Okay. J'imagine qu'il y a une raison. Là. Ça mm-hmm. doit pas être aléatoire, I guess. Là.
Ben, peut-être. Tu reconnais la ville. Parce que c'est là où tu habites, t'es dans Arkham.
OK, d'accord.
T'es dans Arkham, mais c'est pas du tout la même ambiance. Et je te dirais que t'as peut-être, pour répondre à ta deuxième question, t'as peut-être un moment où t'en regardes autour de toi, puis il y a quelque chose de très off dans... Pas quelque chose de off, mais au contraire, quelque chose de très différent dans l'ambiance qui entoure la ville présentement. Et ta réponse à ta question au moment où que tu aperçois d'autres personnes qui font également la fête dans la rue et qui balancent dans les airs un tas de papiers et que sur le sol, non loin de toi, un papier qui semble être une couverture de journal vient s'apposer sur le plancher et que tu peux comme facilement mettre ton pied dessus puis juste apercevoir la une du journal. Et je vais te le faire apparaître dans notre conversation. Tu vois qu'il est... tu me diras quand t'es dessus.
Ouais, je suis dessus.
Tu vois que c'est le Arkham Advertiser. Puis marqué « La guerre est finie
okay. ».
Et en fait, ce qui te marque plus qu'autre chose, c'est que tu vois qu'il y a une date.
Ouais.
145. T'as pas connu cette date-là.
Non, c'est ça. Fait que là, dans le fond, elle est en train de me montrer le futur. Là. Non. Ou en tout cas.
Non. Elle est en train de te montrer une autre réalité où que l'éveil a jamais eu lieu.
OK, mais...
Parce que tu vois qu'autour de toi, c'est le bonheur. Là. Tu vois qu'il fait soleil, il y a pas de brume, là.
Oui, mais on n'est pas en 45, là, nous.
Je sais pas en quelle année que t'es.
OK, d'accord, elle me montre ça, mais après, je veux dire...
En fait, elle ne te le montre pas, c'est que t'es là présentement. C'est ça, le portail. C'est un autre monde.
OK, fait que ce serait la possibilité d'avoir finalement jamais vécu l'éveil.
Exactement.
Puis de ce que j'en comprends, de ce que vient de me dire Miguel, c'est ça son nom?
Oui.
Kane, lui, voudrait aller l'autre bord pour annihiler la possibilité de ce monde-là. Puis eux, ce qu'ils voudraient, c'est donner à tous la possibilité d'aller dans ce monde-là.
À tous, ou ouais, à du moins les gens qui auront l'occasion d'y aller, parce qu'au final, ça serait possible de comme... Ce serait possible. Alors, du moins, ils ne savent pas. Là. Personne ne le sait. Là. C'est jusqu'à où est-ce qu'Elisa est capable de comme maintenir, on va dire, cette espèce de d'ouverture-là menant à un univers parallèle. Là.
OK. Ben, je prends cette information. Mais genre, je sais pas d'interagir, là. J'imagine que je peux pas, de toute façon.
Ben oui, tu peux. T'es là pour de vrai, là. T'es là pour de vrai pendant...
Mais pourquoi elle fait pas ça avec tout le monde?
Ben, parce que c'est juste le temps qu'elle chante, là. Quand elle va arrêter, tu vas revenir.
OK.
Et peut-être qu'à ce moment-là, justement, tu l'entends. Tu sais, t'as tout le temps encore l'espèce de plaisir de la ville et tout ça, puis le monde qui jase, puis le monde qui échange, mais... Si tu prends comme un 30 secondes pour t'arrêter, tu vois que t'es capable d'entendre cette espèce de humulement-là dans le fond de ton oreille, comme si quelqu'un continuait à te murmurer quelque chose.
Est-ce que je saigne pis tout ça comme lorsqu'elle chantait...
Non, parce que justement, ça semble pas être autant...
intense que sur la vidéo. OK. Ben encore une fois, j'imagine que je prends un peu de temps pour me ressaisir. Et si tu me le permets, je prendrai mon hameçon, là, puis je pense qu'il est temps que je me pique un peu pour me remettre dans la réalité. Là. Ouais, c'est comme on se pince pour savoir si on est véritablement là. Ben moi, c'est ma tactique pour faire comme « OK, ça saigne, j'ai mal, je suis revenu. »
Oh, oui,
ça fait quand même deux fois que je suis dans des mondes
c'est un gros épisode genre, là-dessus. C'est 30 un gros
minutes,
épisode.
Là. C'est comme « là, donnez-moi une chance. » C'est
un gros épisode que, sur les rêves et les mondes parallèles. Mais tu vois que tu te piques avec ton hameçon, puis au moment où tu te piques, l'espèce de moment que tu peux apercevoir comme l'espèce de petite goutte rouge qui se forme au bout de ton pouce, là, la petite goutte de sang, et t'as un gars qui arrive vers toi en courant en disant genre... il essaie de te prendre par les mains, puis il fait comme une espèce de genre « Hey, mais est-ce que vous avez vu là, le Japon? C'est terminé, le Japon a décidé d'arrêter, il y a eu Pearl Harbor, tout ça, mais là, c'est fini! » Il est juste comme en espèce d'extase de moment présent.
Eh ben, je vais comme festoyer avec lui, là. Tu sais, je vais comme y faire un câlin, là, comme des gens qui se réjouissent et qui sont heureux, là.
OK. OK. Tu t'embarques dans l'espèce de festivité, là.
Ouais, mais en espérant revenir bientôt, là. On n'a pas de temps à perdre, là. Déjà, j'ai été à terre pendant 2h30 de temps, là.
Mm-hmm.
C'est juste, je sais pas comment revenir, moi, là. Je veux dire, il faut qu'elle arrête de chanter, j'ai pas de contrôle.
Sauf qu'éventuellement, ça... En tout, tu sais, on dit tout ça, mais ça... Tout ça a dû se passer
dedans
comme 5 minutes, là. Tu sais, on s'entend, là. Mm-hmm. 5-6 minutes. Et au moment où est-ce que, justement, tu... T'es peut-être dans cette espèce de fête et même de réjouissance par rapport à un événement que t'as aucune crise d'idée de qu'est-ce que ça représente, là. Tu sais même pas que, genre, il y avait une... Tout dans ta tête, il y a eu une guerre mondiale, c'est tout. Là. Il y a eu la grande guerre, là. Il y a de l'endroit une seconde. Et soudainement, ça dure comme... Le moment entre les deux doit durer le temps d'un clignement d'yeux, alors que tu as ce moment-là où que le fond de murmure dans ta tête s'arrête. Tu as le temps de cligner une fois des yeux, et lorsque tu réouvres, tu vois que tu es de nouveau dans la pièce. Avec tout le monde. Et tu vois qu'à ce moment-là, Miguel, il est comme un peu penché par-dessus toi, puis il fait « Vous allez bien? »
Oui, ça va, mais prochaine fois, ce serait bien qu'on me laisse un peu revenir dans la réalité avant de m'envoyer encore quelque part où...
Mais là, vous étiez pour de vrai. Vous étiez pour de vrai. Ce n'était pas dans votre tête. Vous n'étiez plus sur le lit, hein.
Je le crois pas, on dirait.
OK. Genre, fuck off. Fuck off, Miguel. Vous comprenez maintenant les implications. C'est un endroit, un monde, où tout ce qu'on vit présentement n'aurait jamais eu lieu.
Mais et il si sera on est... seulement pour les privilégiés.
Mais non, c'est justement, si on est capable de l'enregistrer... Ça sera, on pourra le répéter, on pourra le refaire plein de fois. Il n'y aura pas de question de rester, de devoir toujours utiliser Elisa. Si on est capable d'avoir le bon équipement pour l'enregistrer, vous l'avez vécu, si vous l'avez senti dans le cinéma. Il y a quelque chose qui se passe.
Oui, mais c'était aussi très douloureux et je pense qu'on aurait pu y rester.
Il fait... Pour l'avoir vécu à quelques reprises via des films, oui, c'est douloureux. Non, on n'y aurait pas resté. C'est pourquoi on tente de trouver une façon
de répéter l'expérience avec possiblement un équipement qui sera plus performant. Et c'est pourquoi il faut faire quitter Elisa, l'Arcane, rapidement. Et on va l'envoyer dans une des cités sous-marines.
Est-ce que moi, je sais que ça existe?
Tu sais que ça existe. Mais c'est genre... C'est soit t'es né là, ou soit tu chies de l'argent par les oreilles. Là. Tu peux pas comme aller là. Faut que t'ailles comme... C'est ce qui a un peu, ça a été un peu l'espèce de réponse immédiate lorsqu'il y a eu le Grand Éveil. C'est les ultra-riches qui ont fait. C'est qu'ils ont fait des cités sous-marines. Ils ont fait des endroits cloîtrés. Des genres de... cités bunkers sous-marins.
Ouais, ouais.
Où ils dont sont allés.
J'imagine que vous avez des contacts ou beaucoup d'argent pour croire qu'on va laisser les rentrer
oui.
là.
Oui, on a un contact. On a un billet. Un billet. Et on est en train de falsifier pour en faire un deuxième. Parce que le contact qu'on a eu, c'était un seul billet pour Elisa. Mais c'est trop dangereux de l'envoyer seul. Mais il faut se rendre jusqu'à l'embarcadère pour descendre dans la cité.
Déjà sortir de la maison, ça semble être toute une préoccupation.
Oui. Effectivement. Et c'est ce que les gars sont en train de regarder. Puis ceux qui ils pointent en direction des personnes qui sont comme dans le couloir, qui ont l'air de jaser entre eux. Puis on a, ça a l'air de pas trop être vraiment sur la même longueur d'onde, sur la marche à suivre. Et l'objectif, oui, là, présentement, ce serait de faire sortir Elisa, c'est le premier. En fait, c'est la chose la plus importante. On a le deuxième billet qui est en train de se terminer en bas. On a les personnes qui travaillent sur l'impression. Et tu te rappelles d'avoir aperçu des machines imprimées dans le sous-sol. Et une fois qu'on aura tout, eh bien, on s'arrangera pour savoir. Je pense que c'est supposé être... il va se tourner vers sa collègue. Là, puis je crois que c'est... On s'était dit que c'était soit moi ou Edna qui allait là.
D'accord, alors vous attendez quoi de moi?
Monsieur, jusqu'à preuve du contraire, Monsieur Kane pense que vous êtes encore avec lui.
Oui, mais s'il me voit ressortir, il va probablement tenter de me faire parler. Ce sera difficile d'inventer une histoire qui tiendrait la route avec vous à l'intérieur et Elisa aussi.
Est-ce que vous avez une idée? On est ouvert à tout.
Eh bien, moi, je l'ai dit, dans le meilleur des mondes, j'aurais voulu protéger Elisa jusqu'à la fin.
Parce qu'il y aurait aussi la possibilité qu'on tente le tout pour le tout. J'ai des hommes ici. On est armés. On peut avoir une altercation en pleine rue, en plein jour, avec les hommes de Kane, ce qui attire amplement l'attention. Pendant ce temps, vous sortez par une porte secondaire avec Elisa et vous partez en direction du port, en direction des quais.
C'est une possibilité risquée, mais le deuxième billet ne m'est pas destiné.
Et puis le deuxième billet n'a pas encore de nom.
Mais je ne voudrais pas prendre la place de quelqu'un d'autre.
Tu te tournes vers Edna et les deux se regardent un peu. Edna te regarde et fait juge. Vous souhaitez participer à... Il dit, dans le pire des cas, je pourrais partir avec vous pendant que Miguel et les hommes s'occupent à faire la guerre et comme ça, nous serions au moins les trois. J'aurai mon nom sur le billet.
Nous pourrions faire ainsi, oui.
Il se tourne vers Elisa. Elisa t'en regarde, elle n'a pas de l'autre de l'assure. Elisa pourrait... Tu vois qu'Elisa, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a tous ses... sa stabilité mentale. Il a l'air de se passer quelque chose par la tête, puis elle dit, oui, je suis prêt un peu à tout faire pour
partir rapidement, mais il faut pas que vous me renvoyiez avec M. Kane. Pour vrai, ça... Ça ira pas.
Il n'en est pas question.
Non, bien sûr que non. Bon. Parfait. De toute façon, le projet est plus grand que notre existence actuelle. Si on est capable de maintenir le tout, on est capable de m'amener Elisa jusque dans la cité souterraine, la cité sous-marine plutôt, et bien, nous allons pouvoir possiblement au moins espérer un avenir meilleur pour des personnes qui ne sont pas encore nées ou pour les personnes qui sont encore vivantes présentement. Parfait, on va faire ça. Est-ce que vous vous sentez prête à... Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour courir? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?
Non, je crois que ça va.
Parfait. S'il se passe quoi que ce soit, Miguel prend un morceau de papier et il écrit dessus le nom de Tommaso, Mattia, avec un S, Tommaso, Mattia. C'est notre contact dans la cité sous-marine. C'est un mécène italien qui, sa famille avait énormément d'argent. Ils étaient des propriétaires, justement, de cinéma pour des films italiens. Ils ont énormément d'équipement. Et de ce qu'on pense, ou du moins de ce qu'ils nous laissent sous-entendre, ils ont le nécessaire pour projeter une version peut-être encore plus parfaite des enregistrements que nous avons faits avec Elisa.
C'est noté.
Bon, ne perdons pas de temps. Donc immédiatement, il sort un petit pistolet de ses poches. Les autres hommes, les autres personnes n'ont pas tant de fusils excepté lui. Comme je l'avais déjà mentionné, les fusils, c'est pas nécessairement le truc le plus popularisé ni encore tant ça répandu. Est-ce que vous avez besoin d'une arme?
J'avais récupéré ma matraque, hein?
Oui, tu l'as.
Je pense que je vais garder juste ça parce que ça doit m'avoir traumatisé un peu d'avoir tiré du gun à bout portant.
Dans la tête de quelqu'un, ok. Eh bien, ne perdons pas de temps. On y va maintenant. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Cool. C'est ça encore une fois. Oui, c'est ça. Gros épisode de transplanaire et de voyage astral. Mm-hmm. Tu aimais ça au moins, Marie, quoi?
Oui, beaucoup. Bon. C'est très différent de ce qu'on avait fait précédemment.
Effectivement,
quand même.
Surtout quand tu parles avec un chat. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça, en fait. Je te vois que en nous réécoutant, puis en écoutant un peu ce qu'on a fait, puis en voyant les commentaires sur Internet, on dirait que là, c'est pas dommage, c'est pas ça que je veux dire, loin de ça, mais on dirait que j'aurais voulu. Je trouve que j'ai été très centralisé dans le déroulement de l'aventure, puis j'aurais aimé ça justement aller explorer d'autres thèmes, puis d'autres choses que j'avais déjà pensé ou que j'avais mis sur la planche avec le concept même de ce jeu-là, puis on dirait le setting en soi, parce que là, c'est très urbain, alors que j'aurais pas parlé des îles, puis des différents îlots, puis là, on est comme Arkham, puis on est au cœur d'Arkham, puis tout le temps, wabala. Fait que, mais sait-on jamais où est-ce que cette aventure-là va nous mener au final. Fait que, mais oui, c'était très différent avec justement le voyage dans tes rêves et également aussi le voyage dans notre dimension. Mais merci, Maïka. Merci aux gens qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez hâte de voir la suite. On approche dangereusement de la fin. Et si vous avez des questions, commentaires ou autres, vous pouvez les laisser dans les commentaires en dessous. Je ne te donnerai pas de points d'expérience pour cette fois-ci parce que je constate que c'est un peu... on est entre deux. On arrive vraiment comme à l'autre finalité. Je te donnerai des points d'expérience à l'autre partie. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.